Père, du Fils et du Saint-Esprit.
La fameuse parabole du grain et de la levure enfouie dans la pâte. Elle est à la fois magnifique et redoutable, dangereuse, cette parabole. Elle est dangereuse parce qu'elle a prêté à un certain nombre d'interprétations erronées. Ne sachant plus que faire pour gagner à Jésus-Christ certains pans de la société dans laquelle nous vivions, la société moderne, pans qui semblaient hermétiques désormais à une évangélisation classique, il pourrait bien l'adopter pour rallier au Christ. Je parlais notamment de ces milieux ouvriers que l'Évangile semblait délaisser totalement, ou que du moins l'Église peinait à convertir. Vous avez entendu parler, comme moi, de ces ouvrages au nom évocateur, La France, pays de mission, ou encore cet ouvrage du père Voilaume, le fondateur du Petit Frère de Jésus, Au cœur des masses. Ça, c'était en 1969, tandis que France, pays de mission, ou pays d'aide dans les années 50. Ces apôtres amoureux du Christ, pas à tortiller, amoureux du Christ, au Christ, en fait, leur contemporain, qui vivait si loin de son église, ont cru pouvoir trouver la solution, problème, d'hermétisme à l'Évangile, dans une pastorale qui se réclamait de la parabole d'aujourd'hui précisément. La parabole de la levure dans la pâte et la parabole du grain caché en terre. Vous avez tous entendu parler de la fameuse pastorale dont le principe était très simple. Il s'agissait de, dans le milieu de ces hommes loin de Dieu, dans son discrète, semblable en tout point à la leur, quasiment, de les rejoindre en amont là où pavillon, du sac de l'état religieux qu'avaient pourtant embrassé ces hommes qui se mêlaient à eux. Être, selon l'expression fameuse du bienheureux père de Foucault, le frère universel de tous. Pour sa foi, très discrètement, banlieue d'alors, dans les premières grandes barres de HLM, au milieu des chantiers navals au rond du Nord, on était sûr qu'on gagnerait le prochain au christianisme, simple, droite, et d'une vie droite surnaturalisée par les sacrements et l'oraison. Mais comment est l'oraison vécue de manière très discrète, comme en catimini, vous voyez, et dont autrui, c'est sûr, un jour nécessairement pourrait deviner la source. On vivait dans son coin de sa foi, on fréquentait ces hommes-là, et par notre générosité, par notre bonté, nécessairement, ces hommes allaient un jour nous poser la question d'où se viennent, d'où te viennent ces qualités, d'où te vient ce regard si pénétrant. Et alors, on pourrait répondre de Jésus-Christ, enfin. Ce fut l'expérience encouragée dans un premier temps par le Saint-Siège, et ensuite, bien vite, par le même Saint-Siège, l'expérience douloureuse des prêtres ouvriers. Cette pastorale a conduit à l'impasse Poussel. Notez qu'elle avait au moins ce mérite de promouvoir, de mettre l'accent, disons, la nécessité non seulement de prôner le christianisme, non seulement d'annoncer les dogmes de foi, mais encore d'en vivre concrètement. Et pas le retirer à ceux qui ont voulu s'enfuir dans le milieu ouvrier. Cependant, si cette expérience s'est révélée fumeuse et ruineuse même, c'est sans doute pour les motifs qu'on peut comprendre aisément. D'abord, l'évangélisation requiert une appel régnant ne cesse de le rappeler, notamment à l'occasion de l'année de la foi, dans ses homélies d'ouverture de toutes sortes, croire dans sa lettre Porta Fidei, il le rappelle, nous devons explicitement, en plus de notre conversion personnelle, en plus de notre conduite empreinte de charité, nous avons le devoir d'une annonce explicite de l'Évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et on ne voit pas que la bonne nouvelle du salut part de vers soi. Si elle est belle, c'est bien pour qu'on l'annonce. Voyez. Aucun motif ne saurait donc dispenser le chrétien de prêcher clairement, explicitement, cette bonne nouvelle. Les hommes ont un droit. Ça, c'est une expression que je trouve très judicieuse de la part de Benoît XVI. Il ne l'a pas inventée, mais il la remet en avant. Les hommes, nos contemporains, qui sont loin de Dieu, ont un droit. Pourquoi ? Parce que, comme nous le dit l'Évangile lui-même, Jésus-Christ est mort pour tout homme. Père explicitement. Vous voyez, cette sorte de jeu de piste qu'a pu connaître la théorie de l'enfouissement, jeu de piste où il fallait remonter des disciples anonymes à leur maître, est totalement improbable. Il est évident que pour le commun des mortels, qui n'a pas de sixième sens, qui n'est pas intuitif plus que de raison, il est impossible de remonter sans annonce explicite à la source de toute chose et à la source du salut, notamment, quand même, ce que nous a dit le Seigneur très clairement. Vous êtes la lumière du monde, cachée sous le boisseau, c'est sur le lampadaire. Comment on a pu tomber dans ce travers de croire qu'on pourrait, en se cachant, annoncer Jésus-Christ, vous voyez, par une sorte de paradoxe un peu étrange. Il y a, je crois, un autre motif qui a mené cet enfouissement à l'échec, c'est que, finalement, elle possédait une grande témérité. Derrière cette bonté, cette générosité, derrière ces grandes âmes, en réalité, se cachait, il faut bien le reconnaître, beaucoup de présomption. Corrompt dans les barres de HLM, dans les docks, telle témérité, en se disant qu'on n'allait pas se laisser gagner par le matériel, par cette idéologie de la lutte des classes qui régnait alors en maîtresse dans ces lieux. Je crois que ces prêtres ouvriers n'étaient absolument pas parés à un milieu aussi corrosif et qu'ils ont présumé de leur force. Reste de milieu bourgeois ou aristocratique, ils avaient été préparés à l'ancienne dans des séminaires de modèle tridentin. La théologie qu'on leur avait enseignée n'avait pas grand-chose à voir avec les théories syndicalistes qu'ils auraient à entendre en fréquentant cette classe ouvrière qui voulait ramener au Christ. Derrière beaucoup de générosité, en même temps, une pointe et pourquoi pas beaucoup de présomption. Leur enthousiasme de leurs 25 ans par sa famille et le sel devenant fade ne servait plus à rien. De faire germer la vérité et faire germer la vie dans le milieu vers lequel ils étaient allés. Le sel s'est fait corrompre par le milieu qu'il entendait relever. Je crois que nous devons tous méditer là-dessus parce que nous ne sommes pas exempts de ce type de tentation. Parfois, de ne pas oser annoncer explicitement pour mieux gagner l'autre, bien sûr, en fait, avec respect humain et crainte d'annoncer explicitement l'évangile et des conséquences de cette annonce explicite, nous gagne. Mais nous cachons cela derrière une technique de, pourquoi pas, de marketing pour essayer de mieux convertir l'autre. Je crois qu'il y a, de notre part, la même témérité, il faut bien le dire, nous allons nous faire ronger. Non seulement parce que les hommes y ont droit, mais aussi parce que tel est notre salut. Nous ne pourrons pas tenir longtemps dans un milieu hostile si nous n'annonçons pas explicitement Jésus-Christ. Que les choses soient claires dès le début. Je me suis au séminaire, vous connaissez sans doute, garde ta soutane et ta soutane te gardera. Comment ? Nous ne sommes pas des saints, ne soyons pas présomptueux, nous avons besoin de ces signes. Et retrancher derrière ces signes explicites qui sont pour nous comme une sorte de garde-fou. Lorsqu'on s'est annoncé explicitement chrétien dans une entreprise, il est difficile ensuite de ne pas essayer de vivre concrètement de l'évangile. Et ça, c'est quelque chose qui nous sauve, quelque chose qui garde. Et puis, je crois que cacher ainsi, cacher son évangile, malheureusement, n'était pas conforme à la logique du procès par signe visible, par signe sensible du sacrement, que de rendre visible par des signes très accessibles des réalités surnaturelles. Je crois que mes frères prêtres ouvriers, mes devanciers, de tant soigner les corps, de respecter l'incarnation, ont péché par angélisme, par spiritualisme. Ils ont cru qu'en diffusant une sorte d'esprit du christianisme très discret, voyez, qui planerait au-dessus d'eux, on sait trop comment, ils arrivaient à amener les gens à Jésus-Christ. Et pas du tout accompagné de l'incarnation des signes clairs qui doivent amener l'être humain à Jésus-Christ, c'est petit à petit envolé. Voyez, alors, encore une fois, je ne fais pas une sorte de réquisitoire contre les prêtres ouvriers, ni contre cette théorie d'enfouissement. Oui, c'est une tentation qui risque bien de nous attaquer également, de nous toucher. Gardons bien présent à l'esprit qu'il nous faut annoncer Jésus-Christ, parce que les hommes y ont droit à cette annonce, parce que nous avons protection dans cette annonce explicite, parce que telle est la loi de l'incarnation, que tout se passe par des choses claires, tangibles, sensibles. Alors si Jésus-Christ, dans cette comparaison du royaume avec P ou avec une part à la théorie d'enfouissement, comme je viens de vous donner sa description, s'il ne nous incite pas à cela, à quoi nous incite-t-il? Pourquoi cette comparaison de royaume avec ce grain de sel ou avec cette levure? Je crois, mes frères, que Jésus veut là nous apaiser. Il veut nous prémunir contre le découragement. C'est comme s'il nous disait, quand vous m'annoncez aux hommes, ne vous inquiétez pas si votre vocation semble sans. La graine que vous avez plantée ne lève pas immédiatement, voyez, en herbe. N'ayez crainte. Et même, parabole de ce qu'il nous disait il y a quelques semaines dans la parabole du bon gré, je crois même que c'était la semaine dernière, que livrer à raison du blé que vous avez planté, qu'importe. Compte, c'est que vous ayez planté cette graine, que vous ayez témoigné de moi, et annoncé cette parole. Ne soyez pas orgueilleux, même pas que c'est vous qui allez faire lever le monde entier en christianisme. que je vous demande à vous d'annoncer cette parole, qu'importe le reste, le semeur, autre le moissonneur. Vous voyez, je crois qu'il y a dans cette parabole en fait quelque chose de profondément rassurant. Porte, mes frères, c'est que nous témoignons de Jésus-Christ, sans du tout être méprisant, sans un nécessaire amenard et en permanence si touchant, d'ordre, mais de manière parole plus tranchante que le glaive, aura nécessairement une efficacité. Parole, c'est celle qui a tout créé, cette parole, c'est celle qui recréera tout. Parole, elle nous dit, j'ai vainqueur, si le grain ne monte pas tout de suite dans l'herbe, et si notre apostolat ne porte pas des fruits démesurés, nous entend mieux, si nous ne voyons pas le fruit de notre labeur. Soyons certains d'une chose, devons porter sa parole. Parce que nous devons recevoir la foi, bien sûr que c'est exigeant, bien sûr que c'est déroutant, mais telle est notre vocation. Demandons à la Vierge Marie, qui elle a bien saisi que derrière un échec apparent de la croix de son fils, derrière un échec apparent, en réalité se cachait, mais à moyen terme ou à long terme, se cachait enfin le royaume et cette...